les bipèdes, bienvenue dans ce podcast numéro 60 de CGY. Vous l'entendez, ce n'est pas le doc cette fois, mais bien Néo. Et ce n'est pas non plus ni Pez, ni Djeko, ni Bibi qui va m'accompagner cette fois, mais une toute nouvelle que l'on accueille chaleureusement du doux nom de Marie.
Coucou tout le monde et merci de m'accueillir sur le podcast.
Marie, que vous avez certainement entendu dans un précédent podcast où on a eu la chance de l'interviewer sur son travail, sa profession et sa carrière, que ce soit en festival de cinéma Montpellier-Rhin, en production, en... Tu as des titres à n'en plus
finir. Tout ce qu'on aime, quoi. Le jeu vidéo, le cinéma, voilà, l'animation, tout ce qu'on aime.
Donc, si vous avez besoin de savoir qui c'est, vous avez toute une émission pour,
voilà, c'est ça.
Pour la découvrir. Marie, je suis très content que tu sois avec nous. Merci d'avoir rejoint l'équipe.
Ben, merci de l'invitation. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de participer du coup à l'aventure avec vous.
Eh ben, ça sera ton baptême aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un invité que l'on connaît bien tous les deux, que tu connais même plus que moi d'ailleurs. Donc, c'est assez rigolo de faire ce baptême avec lui, du nom de Laurent Lecroiset.
Bonjour.
Bonjour Laurent, donc on va parler, tu es environnement artiste, pour dire globalement ?
Globalement, ouais.
Voilà, tu as une grosse carrière, tu as fait pas mal de choses très techniques, tout aussi, oui en tout cas, éclectique, c'est comme ça qu'on dit,
ouais, voilà.
Hétérogène, je ne sais pas, voilà. On va découvrir tout ça, ça va être très cool. Mais juste avant, je fais mon petit quart d'heure promo. Alors cette fois, j'ai fait un post-it, alors vous allez voir, ça va être beaucoup plus carré que d'habitude. Donc pour tous ceux qui aiment ce que l'on fait et qui ont envie de nous soutenir, vous avez donc un Patreon où vous pouvez rejoindre, vous pouvez vous souscrire en fait par émission à hauteur de 1 euro, 3 euros ou 5 euros. Donc il y a trois paliers, junior, mid, senior. Le junior, vous avez les émissions une semaine à l'avance et votre nom dans les notes de l'émission. Si vous passez en mid, vous avez tout ça, mais en plus, on met aussi votre poste et un lien vers le CV ou la démo que vous avez envie de partager avec les gens de la communauté. Et si vous passez senior, vous avez des petits goodies et en plus, vous avez accès au Discord et du coup, vous allez pouvoir partager avec nous et avec tous les gens qui sont seniors. Il y a pas mal de discussions qui tournent autour de... ça peut être des nouveautés, ça peut être même du boulot, pourquoi pas, on sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez aussi, donc pour ceux qui veulent nous soutenir, mais pas forcément souscrire à une prélèvement à l'émission, etc., vous avez un Spreadshop où il y a plein de goodies, des t-shirts, des trucs comme ça, qui sont un peu vieux certes, mais voilà, qui sont toujours dispo. Il y a un PayPal pour faire un don aussi, directement, si vous voulez faire un don ponctuel. Et surtout, partagez l'émission, parce que c'est ce qu'on veut, c'est partager le bonheur, partager le plaisir, partager la passion. Donc, sur Instagram, sur X ou Facebook. Alors, X, j'espère que bientôt on partira et qu'on ira sur Blue Sky. Mais en tout cas, vous nous retrouvez à @CGYPodcast. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à faire partager tout ça. Et on va entamer l'émission.
C'est parti.
Alors, Laurent, mais qui es-tu?
mais
d'où viens-tu?
Je suis Laurent.
Et que fais-tu?
Du coup, ça commence aux études, on va dire. Donc, je viens de New Age à Paris, où j'ai fait une section CG plutôt que jeux vidéo. Et en parallèle, je faisais de l'alternance avec Siani Studio. Et du coup, ma première boîte, ça a été Unity Mash pendant 4 ans. Et ensuite, Ubisoft.
Ta première boîte, ça a été Unit.
Ouais.
Quand même.
Enfin, après, Cyanide, où j'avais fait pas mal d'années, quand même.
Ouais. J'ai vu que t'as commencé en stage et tout, alternance en
c'est
même
ça.
Temps, ce que
stage,
tu faisais.
Stage, alternance. Et c'est là où j'ai quand même pas mal appris, parce qu'on apprend toujours mieux dans le vif du sujet.
Tu peux parler un peu de la formation New Age, justement, comment ça a été pour toi? Est-ce que t'as plus appris dehors ou de, enfin, tu vois?
Ça a été, en fait, ils forment des étudiants à partir de professionnels qui viennent en intervenant. Il y a quelques profs qui sont là tout le temps. Mais non, très bonne formation, un peu dans tous les domaines. Ils font pas vraiment d'animation, ils font plus tout ce qui est vraiment image généraliste et tout ça. Mm-hmm. L'animation, ça pêche un peu des fois, mais ça s'améliore énormément avec tout ce qui est mocap et tout ça. Et il y a quelques profils qui sont quand même bons. Et comme toute école de CG ou de 3D, c'est beaucoup d'auto-formation et voilà quoi.
Donc, t'as appris beaucoup plus après, finalement, en commençant les boîtes et tout.
Ouais, surtout les boîtes, quoi.
Et quand t'as été stagiaire et alternant, tu faisais beaucoup de choses ou t'étais déjà spé enviro dès le départ?
Je faisais pas mal de props. Tout ce qui était les caras, ça m'attirait pas forcément. Parce que un peu moins d'appétence pour ça, on va dire. Mais ouais, plutôt tout ce qui était généraliste, vraiment à comprendre tous les aspects de la 3D, du rig, du autant de la tech que du que vraiment de l'artistique.
Ouais, t'étais déjà très tech en fait dès le départ.
Un peu à la base quand même. voilà.
J'ai une petite question, moi. Est-ce que c'est pas indispensable un petit peu de passer par ce circuit-là, de voir un petit peu tout? Tu vois, d'être généraliste pour pouvoir t'orienter plus facilement après vers ta spécialisation.
Ça dépend des profils. Ok. Il y en a qui sont très très bons en dessin, je les ai vus. Ils font du cara tout de suite, ou du concept artiste, ils sont à fond là-dedans et ça marche très bien pour eux. Et si tu veux vraiment, ouais, toucher un peu à tout, enfin au début, si tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, faut toucher un peu à tout, quoi.
Et quand t'es tech aussi, peut-être, pour comprendre les rouages.
Ouais, comprendre tous les aspects. Autant pour du personnage que de l'enviro, ou même du moteur, ou du rendu, ou ce genre de choses, quoi. Donc, faut apprendre, voir un peu tous les aspects, quand même. Enfin, moi, c'était ma volonté, en tout cas.
Ouais.
Et oui, une expérience aussi que j'ai pas dit, c'était hors côté vraiment image, c'était plus de l'architecture.
Ouais.
Ouais, je voulais voir un peu ce que ça donnait dans ce domaine. Et
mais eux proposaient des trucs là-dessus?
Bah, c'était l'autre image, le studio que j'avais fait, qui faisait de l'architecture, que j'avais eu de contact à Paris quand j'y étais, et qui avait vraiment, ouais, c'est un autre domaine. J'étais intéressé quand même de comprendre quelle était la différence entre.
Et c'est quoi la diff alors? Moi, ça m'intéresse aussi parce que on en a pas beaucoup parlé dans le podcast, tu vois, parce qu'on parle souvent d'anime, JV et tout.
Ouais.
Et c'est vrai que il y a d'autres domaines comme je sais pas les vidéos de bowling.
Ouais, ça c'est un concept, ce truc.
Et en archi, ouais, on va te demander quoi de différent justement.
Le timing.
Le timing.
Ouais, c'est des timings beaucoup plus courts.
Ah oui, entre le moment où le client arrive et ce que tu dois livrer. Ah oui, d'accord.
Et ça dépend des boîtes, mais la sensibilité qu'ils ont à l'image. Là, faut montrer des produits. Faut pas montrer, une belle image. Enfin, faut lier tous les domaines en fait du produit qu'on fournit, quoi. On vend un centre commercial. On vend pas un concept de jeu vidéo.
Ouais. T'as besoin d'être précis. Voilà. T'as besoin d'avoir des choses qui sont un peu cohérentes. Jeco, qui est un de nos co-hosts aussi, lui il bosse dans une boîte qui fait à l'époque où on discutait avec lui, en tout cas il bossait sur des réflexions ultra précises pour justement vendre plus proche possible de ce que ça allait être dans la réalité, avoir un retour visuel, parce qu'en plus j'imagine que dans ce genre de boîte tu as affaire à des gens qui connaissent peut-être pas forcément ils n'ont pas le même œil que des gens de notre milieu.
Qui viennent de la CG ou genre.
Donc, c'est d'autres manières de les convaincre, Putain, c'est marrant.
Et comme tout nouveau dans une boîte, quand t'arrives, tu viens avec ton expérience, mais commencer à expliquer des choses en disant, bon, est-ce qu'on peut les faire évoluer? Les gens sont un peu réticents dans le jeu vidéo, partout, quoi.
Ah ouais, oui.
Ouais. Dès que t'amènes de nouvelles techno, un petit retrait quand même.
Ils ont peur, on a toujours fait comme ça.
C'est ça.
Et au niveau budget, ça doit être différent aussi. Genre, j'imagine qu'une boîte d'archi n'a pas le même budget pour la 3D qu'un produit culturel où tu as envie de mettre toutes tes billes dedans.
Je sais pas. Ça, je sais rien du tout.
T'as pas senti une diff, en tout cas.
Non. Bon, ça dépend des projets, je pense.
Ouais. Ok. Et donc, tu fais quoi exactement aujourd'hui, alors maintenant, après tout ça?
Alors, aujourd'hui, je suis procédural artiste, tech art et environnement artiste. Et je me suis plus dirigé sur un aspect tech art et de faire du Houdini. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et mon dernier projet avec vous, je crois, Prince of Persia, où je faisais vraiment de l'environ artiste et un peu de pipe sur les outils qu'on a utilisés avec Houdini, par exemple.
Tu peux expliquer un petit peu justement comment tu fais du décor avec Houdini et le procédural? J'imagine les deux sont liés.
C'est un vaste sujet.
Ah, on rentre dans l'art direct.
Oui, allez.
C'est à utiliser au bon endroit et au bon moment. En fait, tu peux pas. Ça dépend de la taille des projets, ça dépend de l'impact que tu as sur la création des assets. Genre, tu vas pas utiliser Houdini pour faire un tonneau, par exemple. C'est sauf si t'en as 10 000 à produire et qu'il faut des variations à chaque fois, c'est un peu inutile en fait. Ou alors tu peux l'utiliser sur, bah, par exemple sur de la mise en place d'objets qui sont assez redondants à créer, genre des cailloux ou des falaises ou des trucs comme ça. Et faut que t'aies l'utilité en fait d'Houdini pour produire beaucoup de choses. Pour que ça vaut le coup en fait de développer pendant un mois un outil qui va te permettre de faciliter la vie des graphistes pendant le reste de la prod en fait.
Sous son point fort, c'est de démultiplier, enfin c'est le côté gestion d'une multiplicité de trucs, d'instanciers, ou je sais pas, je dis des termes comme ça.
Comme je te dis, si t'as besoin de produire beaucoup de choses qui sont chiantes à produire,
ouais.
tu peux utiliser des façons procédurales pour faciliter en fait, pour enlever du temps au graphiste pour qu'il pense plus à une composition et à et comment tu vas créer ton environnement plutôt que
faire une variation de 1500 cailloux
faire une variation de mur encore pendant 6 mois et des trucs relous à faire quoi.
Okay.
C'est là où tu peux utiliser le procédural. Et après, procédural, tu peux l'utiliser comme dans certaines prods sur Pop, par exemple, où je pense que JB vous en a parlé.
Oui, j'imagine, oui.
Comment créer des règles en fait de création, notamment dupliquer, que ce soit de façon dynamique, dupliquer beaucoup d'objets pour construire des niveaux et que ça soit assez facile de pouvoir les modifier, plutôt que de recréer par exemple une muraille parce que c'est pas la bonne distance, parce que le LD a changé ou ce genre de choses. Donc sur ces outils-là, ça devient très utile.
Parce que dans le jeu vidéo, on est dans de l'itération, c'est ça, et que ouais. Il suffit que tu rajoutes 2-3 mètres pour un saut ou pour une plateforme ou un truc.
C'est super chiant à modifier.
Ouais, t'as pas envie de refaire une muraille juste pour ça.
Voilà.
Et en fait, ces outils permettent de vite rallonger des bouts et ça, parce que t'as pas expliqué, mais le procédural, du coup, si on peut essayer de vulgariser un peu ce que ouais. c'est pour des gens qui connaissent vraiment pas.
Créer des assets ou des règles en fait dans la création d'un niveau avec des nodes en fait avec des noise comme on peut dire
avec de l'aléatoire
voilà ouais. Pour pouvoir arriver à des résultats différents en fait.
Et donc, toi, tu le nourris avec des pierres, des tailles de murs, je ne sais pas, des...
Ça dépend comment on veut penser le tool en question. Soit on décide vraiment de créer de l'aléatoire, même dans la modélisation, et du coup, on modélise procéduralement. Ou alors, on peut créer donc des règles aléatoires qui vont permettre de faire spawner des... Enfin, qui vont permettre d'afficher des objets différents.
Ok.
Donc les objets qui ont été créés à la main avant, en fonction de règles ou par exemple de, t'as des modules de 4 mètres, de 2 mètres, de 50 centimètres, et en fait moi je crée des règles qui permettent de organiser aléatoirement tous ces modèles.
Ok, parce qu'on entend souvent dans le jeu vidéo le procédural, mais c'est différent d'avoir un niveau qui est généré aléatoirement à chaque fois que tu recommences une partie. Est-ce que toi tu utilises, au final c'est un peu la même logique, mais toi tu t'en sers pour figer quelque chose et au final tu décides de ce que est le décor et voilà.
C'est ça. C'est on utilise les outils pour pouvoir dire à la fin c'est ce résultat qu'on veut. Sur le procédural comme on en pense dans un jeu vidéo n'importe lequel, j'ai pas de nom en tête là maintenant, c'est des règles qui sont faites par des développeurs dans le moteur en question. C'est pas nous à la création.
Okay. Du coup, là, toi, tu as besoin de définir un cahier des charges, en fait, avec d'autres métiers, c'est ça ?
Avec le DT, avec...
Directeur technique ?
Directeur technique.
Ok, ouais.
Justement, où on se dit, comment on va penser, en fait, la création d'un niveau et du coup, de figer et de dire au graphiste, on a besoin de ça pour créer de l'architecture, par exemple. Du coup, vous faites ces modèles-là et nous, on va mettre en place ces trucs-là.
Et après, du coup, là-dedans, comment dire ? Comment tu où est-ce que tu t'inscris en fait dans une chaîne de fabrication ? Du coup, c'est t'as des graphistes qui font des éléments pour toi ou est-ce
Alors,
que tu
là,
les fais toi-même ?
C'est moi qui les fais moi-même.
Ouais. Okay, ouais.
Pour la première passe en fait, on décide On fait un premier proto du tool. On dit bah voilà, on a besoin de tel tool, donc on fait des blockings de modés. Et même après, on fait jusqu'à pousser le visuel final d'un niveau, par exemple, en disant bah voilà, ces tools là, on sait ce qu'on veut, c'est ça maintenant. Et bah toutes les itérations, on fait faire ça par des graphistes.
Ok.
Voilà. Et après, bah, bien sûr, en fonction de quand on crée des différents tools pour faire tout le jeu, par exemple, on peut faire évoluer les tools au fur et à mesure de la prod. Si un graphiste dit, bah tiens, on pourrait plus faire comme ça, on peut bien sûr faire évoluer les tools, quoi.
Du coup, ton métier arrive dès la conception du jeu vidéo, en fait, c'est ça?
Assez au début.
Ouais.
Ou alors, c'est d'arriver sur des projets qui ont déjà des tools et de leur dire, bah tiens, peut-être possibilité de faire autrement, ou il y a des nouveaux tools à créer. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi.
Donc, on peut toujours ajuster le tir, du coup, en cours de production,
ouais,
c'est ça que tu dis.
Même, il y a des projets qui sont très, très gros et où ils ont déjà des façons de faire, où c'est assez difficile de corriger, enfin, pas corriger, mais de les emmener vers une autre façon de faire. Mais ouais, généralement, ça évolue en fonction de la taille des projets, quoi.
Parce que toi qui as fait une... Je me tourne vers Marie et je fais un ping-pong du coup. Mais toi qui as été plutôt du côté un peu prod de projet, il y a de la place justement pour accueillir des nouvelles façons de faire en milieu de course, tu vois, ou c'est quand même chaud parce que j'imagine que ça demande un budget, ça demande de former les gens, ça demande de réapprendre une façon de faire.
Mais après, c'est pour ça que j'en parlais, mais effectivement, après, les métiers tech comme ça, en fait, ils sont vraiment au cœur de la production dès le début, en conception, et c'est là que tu as toutes les réflexions pour justement mettre en place les façons de faire. Après, effectivement, sur le jeu vidéo, en fait, tout au long de la production, tu vas être confronté à divers éléments, et notamment certains tests que tu vas faire au fur et à mesure du dev, en fait, avec les ingés, que ce soit, je pense, par exemple, aux performances, et donc derrière tu vas toujours avoir les personnes techniques ou tools qui vont pouvoir venir t'aider, t'amener un support pour modifier ta façon de faire actuelle et pouvoir répondre à ta problématique. Donc effectivement, en fait, tout au long du projet, les personnes comme Laurent peuvent agir et améliorer les choses, quoi.
Et t'as une diff, alors t'as fait Unit qui est plutôt dans de la CG,
ouais.
Du précalculé du coup,
ouais.
Et là t'es dans du jeu vidéo.
Ouais.
Et du coup, justement, qu'est-ce que tu préchotes de différent entre le JV et la CG dans ce genre de...
Bah, je faisais pas de procédural avant.
Ouais.
C'était vraiment de la création de data pure. Mais on se rapproche, en fait. Je trouve, depuis quelques années, avec Unreal ou d'autres process, où il y a des liens qui se font de plus en plus, qui sont, les games aujourd'hui apprennent des choses de CG, en fait, qui sont
ouais.
déjà en place dans le CG, et ils se retrouvent à devoir, on leur demande de la qualité en disant voilà, je veux le niveau qualité d'un film de CG. Donc ils se retrouvent à devoir adopter des process de CG, et ça c'est super intéressant, et justement ça fait le lien, je trouve, pour les graphistes, des fois, qui se disent qu'ils ont un peu peur d'aller dans le jeu vidéo ou d'aller dans le CG, mais il y a moyen. Il faut bien sûr se former. Il y a plein de choses.
Il y a d'autres contraintes.
Voilà, il y a d'autres contraintes, ça c'est
ouais,
sûr.
Ouais.
Mais ça s'apprend.
Et puis au final, j'ai l'impression que c'est un métier dans lequel, t'es un peu moins lié à la performance temps réel. Genre une fois que ton décor il est fait. Après, c'est de l'optimisation derrière.
C'est ça. Ouais.
Mais comme en CG, on fait aussi de l'optimisation finalement. C'est pas
oui.
la même, c'est pas vraiment
la même,
pas la même
mais
niveau.
Il y en a aussi. Hein.
Mais...
ça c'est pas magique.
Ouais, tu passes beaucoup de temps derrière une fois que c'est généré à optimiser et tout.
En jeu vidéo.
Ouais, en JV, ouais, du
en
coup.
En JV,
ouais.
C'est plus à la fin où en fait quand on commence à avoir toute la quantité de data et dire bon bah on est un peu ric-rac sur les mémoires ou genre de choses, où tu commences à optimiser. Pendant la prod, on a quand même un fil conducteur sur la quantité de poly ou de texture. Et mais il y a une phase d'optimisation, ça c'est sûr.
Mmh.
Donc, et en film, c'est pas forcément au même endroit où tu regardes c'est plus le temps de calcul que ça engendre.
Mm-hmm.
Tu mets pas d'instance, si t'as beaucoup de matériaux, si t'as beaucoup de réflexion, enfin voilà, tout ce truc là, c'est pas la même optime, mais au final t'actionnes des optimisations qui sont un peu au même endroit, quoi.
C'est, ouais.
Le nombre de matériaux qu'il y a dans la scène, enfin c'est toujours le même euh, C'est la même logique, un peu le même derrière. Profil et même logique.
C'est pour ça que tu disais que c'est transposable, en fait, ouais, de voilà, l'un à l'autre, ça. En vrai.
Et ça change un peu avec les nouvelles façons, là, justement, de Unreal Engine. J'ai pas encore pratiqué.
Okay.
Vraiment sur tout ce qui est nanite, tu sais, les géométries qui sont beaucoup plus lourdes mais qui sont légères à calculer.
C'est quoi nanite?
C'est le...
N'hésite pas Marie si t'es perdu, parce que moi je suis perdu aussi, hein.
C'est la nouvelle façon de calculer la géométrie dans Unreal.
Ok.
Et ça permet d'avoir des modèles qui sont très très lourds en full data.
Ouais.
Mais il y a plus une question de level of detail,
de niveau de détail.
Ouais. Détail. Et du coup, tu mets tes données brutes dedans, en fait. Donc, mais c'est soumis à de nouvelles optimisations.
Tu sais peut-être pas encore.
Je suis en train d'apprendre et toujours.
Donc, c'est un truc tout récent, tout vraiment là de.
Bah, c'est de Unreal 5. C'est la nouvelle, c'est leur nouvelle façon de calculer, quoi.
Et ben, ça pourrait bénéficier aussi au cinéma, pour le coup.
C'est ça. Bah, actuellement, t'as des films qui ont été faits pour Love, Death and Robot, ou même pour le truc d'Amazon là,
Secret Level,
qui ont été faits sur Unreal.
Ah ouais, ouais.
Donc tu vois, les deux mondes, en fait, en enviro et en généraliste, artiste ou genre de profil, qui sont voués à, enfin, qui veulent connaître la technique de chacun des métiers, en fait. Mm-hmm. Donc autant dans le CG que dans le jeu vidéo.
Ça a l'air hyper technique, là. Tu nous parles beaucoup de tech depuis le début.
Ouais.
J'ai l'impression que tu fais une veille relativement soutenue, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui font leur taf et qui s'occupent pas des nouveautés qui arrivent.
C'est ça.
Comment tu fais pour être un peu calé sur tout ça?
C'est contact de copains.
Ouais.
Où on s'entraide, enfin, on discute de 3D. Donc, du coup, l'un voit certaines nouveautés. Du coup, moi, ça m'intéresse. Je vais checker. Enfin, tout genre de choses.
Et en général, c'est quoi? C'est des articles? C'est
ouais, des articles, des technos qu'on voit dans les différents studios, des. Surtout sur du Unreal où t'as tout le monde qui est dessus en ce moment. Houdini a une grosse part d'apprentissage. Difficile, mais ultra, ultra intéressante. Et ouais, il faut aussi être intéressé là-dedans, quoi. Enfin.
Il y a beaucoup de docs sur ces softs, justement, là, ou c'est vraiment que par du bouche à oreille, comme ça?
Non.
Est-ce que t'as un Discord, par exemple, à conseiller?
YouTube.
Le Discord YouTube.
Discord YouTube. Déborde d'informations et de gens qui communiquent là-dessus, qui sont à plus ou moins au niveau dans différents logiciels. Et maintenant, hein, grâce à tous ces outils de vidéos ou même d'articles sur 3DVF ou tous les autres sites, il y a des infos partout, quoi.
Ouais. Enfin, c'est souvent en anglais, j'imagine. Ah bah, 3DVF, c'est en français, pour le coup, mais
ouais, mais même je pense que ça vient d'articles qui sont en anglais et,
ah oui, oui. Bah, oui.
Donc non, il y a énormément. Il y a 80 levels aussi que je suis beaucoup.
80 levels?
Ouais.
Ok.
Que je suis beaucoup.
Je mettrai dans les notes de l'émission pour ça. Allez voir.
Bon, il est connu. C'est ceux qui font de la 3D font ça.
Ouais.
Il y a plein de tutos, plein de trucs, quoi.
Du coup, c'est un métier où t'es constamment en train d'apprendre.
Ouais, tout le temps.
Ouais.
En 10 ans de prod, j'ai dû changer 3-4 fois de pipe. Ouais. faut être tout le temps être en veille. Et après, c'est en fonction des boîtes. Où certaines boîtes sont sur 3ds Max, d'autres sur Houdini, d'autres sur Maya. Et ça, c'est très dur, je trouve, de tout le temps être en veille, de pouvoir avoir un taf dans certains studios, parce qu'ils ont différentes façons de produire. Et ouais, il faut être en veille, quoi.
Il y a un intérêt, enfin, justement, là. Ma question, c'est, t'as cité pas mal là de logiciels et tout. J'imagine qu'à chaque fois, il y a un intérêt pour la société à être dessus. Ou est-ce que parfois, c'est juste un historique et justement, ils viennent chercher des profils comme toi pour changer les choses? Ou chaque soft a son avantage pour tel ou tel élément précis?
Ça dépend de l'historique de la boîte, généralement. Okay. Ou pas mal de boîtes commencent à changer après en fonction des profils, notamment dans l'animation, ou s'ils sont pas sur Maya, il y a beaucoup de graphistes, beaucoup d'animateurs en moins. C'est la même chose, en fait, un peu moins en généraliste, parce que généralement, avant, dans les studios, dans les logiciels Autodesk, tu pouvais généralement faire de l'image, enfin de la modélisation, des trucs simples, tu pouvais les faire. Et après, ils utilisaient un moteur de rendu différent, enfin pour la CG. Après, ça commence à petit à petit à s'annuler en fait cette barrière de logiciel, mais ça faut que les studios l'adaptent. Et justement de dire bah, aux graphistes voilà, vous pouvez créer sur n'importe quel soft et nous on s'occupe de exporter correctement, mais généralement, alors surtout en CG, ils essayent d'avoir un soft maître pour enfin dû à l'historique, dû à tout ça, pour avoir le même pipe pour tout le monde en fait. Donc mais en jeu vidéo il y a des moyens d'export maintenant qui permettent en fait de bosser dans n'importe quel soft et de centraliser tout sur le moteur de jeu. Donc, en jeu, c'est beaucoup plus axé sur le moteur de jeu, généralement. Du moment que tu fais ta data, tu la fais sur tout et n'importe quoi, tu peux l'intégrer plutôt facilement, si c'est bien fait, dans le moteur de jeu.
Oui, du coup, et c'est du hyper coup, t'as intéressant.
Pas besoin d'avoir des graphistes spécialisé dans du Maya, spécialisé dans du Blender, spécialisé dans du 3ds Max.
Ouais, c'est en technique que tu centralises tout après pour récupérer la data.
Si le projet ou la boîte décide de le faire, toujours.
Le classique.
Le classique.
Mais ça ouvre des portes. Hein,
mais il y a énormément maintenant l'USD avec le format d'USD de Pixar qui. C'est génial. Là, je le découvre en ce moment. Et non, c'est une possibilité énorme en fait de pouvoir exporter et utiliser plein de soft et de centraliser tout sur un format d'export et de pouvoir le lire dans n'importe quel soft. C'est quand même bien génial.
Tu sais, si les softs récents d'ailleurs, ils ont direct de l'USD, enfin ils prennent en charge l'USD directement, ouais. Ou est-ce que c'est dans l'autre sens que ça se fait, c'est l'USD qui doit s'adapter, tu vois ?
Non, c'est tout le monde adapte à l'USD.
Ouais.
De ce que j'en lis et de ce que moi j'utilise, ouais, c'est plus ça.
Moi, ça m'intéresse parce que je sens que c'est en train de s'installer doucement. Ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on entend parler, mais.
Ouais. Oh, c'est génial. Mais ça a un coût d'apprentissage et parce que c'est une grosse boîte à outils, mais c'est pas au niveau. Le pipe idéal, c'est pas aux graphistes et aux animateurs de mettre les mains dedans. C'est aux gens qui font le pipe.
Ouais.
Et ça doit être totalement transparent pour les graphistes, en fait. Et donc, ça. Ça dépend de la taille des projets, ça dépend de beaucoup de choses.
Et de la taille des boîtes aussi, j'imagine.
Et de la taille des boîtes, toujours.
Parce que j'ai l'impression que c'est dans le JV comme dans le CG, changer, on en parlait juste avant, là, changer une manière de faire et un truc aussi central que ton fichier d'export inter-département, c'est pas un truc que tu changes comme ça.
Non, c'est compliqué.
Faut que les gens... Et en plus, c'est ça qui est, je trouve, délicat, c'est qu'il faut vraiment que tu aies plusieurs personnes en plus qui soient à jour,
ouais.
Qui se mettent à jour sur ce truc et qui comprennent vraiment comment ça fonctionne.
Mais une fois que tout le monde est dessus, c'est génial.
Ouais. Tu gagnes quoi en efficacité, en rapidité, en
possibilité.
En possibilité aussi,
Ça s'adapte à tout, en fait. C'est une grosse boîte à outils et tout le monde peut l'utiliser comme il le veut. Donc, c'est pensé pour CG quand même. Je vais pas tout expliquer, mais c'est plus pensé CG à la base. Et après, comme c'est une grosse boîte à outils, tu peux l'adapter comme tu veux pour le jeu vidéo ou d'autres choses.
Ok. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur ton passage chez Unit.
Ouais.
Ça a été combien d'années? 4, 5 ans? 4 ans?
Ouais.
Il y a un truc que tu as fait de particulier là-bas, quand même. C'est quand même pas rien.
Du rig?
Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le rig?
Non.
C'est
bon là-dedans.
Donc, t'as eu beaucoup à faire à la méthode de ce qu'on appelle du scan, du scan.
C'est ça.
Alors, si je le vulgarise, tu me dis si je dis n'importe quoi.
Vas-y.
Marie, est-ce que tu sais ce que c'est que le scan?
Oui, tout à fait.
Vas-y, je te laisse expliquer alors.
Du coup,
j'ai envoyé au turbin.
Voilà. Pour moi, en tout cas, si c'est ce que je pense, c'est-à-dire c'est genre comme si tu avais dans une pièce plein d'appareils qui allaient te scanner en fait en turnaround dans tous les sens pour derrière reproduire du coup ton image en CG. Est-ce que c'est ça ou pas?
Moi, j'ai la même idée. Moi, j'avais plus l'idée de...
En modèle.
Tu prends des photos de... Oui, bien sûr.
Ah,
moi, j'avais l'image de... Tu prends des photos de cailloux ou de murs ou de bois.
Ah oui, d'ailleurs, tu exportes en cailloux, en mur en bois.
Parce qu'il me semble que ça a commencé comme ça, pour essayer d'avoir des belles textures.
C'est ça.
D'aller chercher des trucs dans la vraie vie, de faire des photos ultra 4K, 12 000K, j'ai n'importe quoi.
Moi, c'est comme ça que je l'utilisais.
Ah voilà. Et tu projetais ça sur les objets pour avoir un aspect réaliste à l'époque. Mais du coup, là, ce que tu dis, Marie, c'est une étape encore au-dessus, carrément. Ouais.
Qu'on avait tenté de faire en jeu.
Si c'est pour du décor ou pour du perso.
Alors vas-y, raconte-nous. Parce que du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que chez Unit,
donc j'ai avec Xavier Poitron et d'autres personnes, notamment, on a monté donc tout un pipe de 3D de scan et ça a bien évolué maintenant depuis que j'y suis plus. Ils ont fait plein de trucs.
C'était il y a combien? Il y a 6 ans, 10 ans?
Il y a plus de 7 ans.
Ouais.
Donc ils ont eu le temps de bien peaufiner le pipe, de faire plein d'évolutions. Moi j'en avais fait quand on commençait réellement en fait. Et du coup je suis arrivé à Unit, on m'a mis à la fois sur du décor et à la fois sur le pipe de scan tu couperas.
Avec Xavier. Ah bah non, on coupe rien.
Xavier et
appelons-le Bob.
Bob, voilà.
Désolé pour Bob.
Et au début, on n'avait pas forcément de softs qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir scanner des personnages ou des objets. Mm-hmm. Comme tu as Reality Capture, Agisoft, il y a un autre soft open source que j'ai oublié le nom. Maintenant, il y en a plein. Avant, on décomposait le pipe dans les différents softs qu'on avait. On avait Nuke, Maya, et pour projeter en 3D des trucs. Donc, je vais pas expliquer tout le pipe.
Ah, bah, si, bah, t'es pas obligé d'aller dans le détail, mais.
C'était complexe.
Ok.
Complexe, c'est non. Du coup, en fait, c'est, par mathématiques, je connais pas trop, c'est à récupérer des points qui sont similaires sur les différentes images que tu fais à 360 degrés pour pouvoir recréer le modèle 3D. En fait, ça te fait des nuages de points et après tu peux reprojeter toutes ces images là sur le modèle en question et reproduire le modèle 3D en full data, quoi. En
fait. Parce que tu dis reproduire le modèle, mais t'as déjà fait la modélisation avant?
Non.
Ah non, c'est à partir de l'image.
C'est à partir de l'image, tu crées le modèle en 3D.
Ah ouais, ok.
Donc ça te fait un nuage de points. Et du coup, ces nuages de points, tu peux les traiter pour pouvoir récupérer le modèle 3D comme avec des polygones, comme tu pour.
Et tu fais ça avec des appareils photo classiques?
Ouais.
Ok.
Enfin, des réflexes, généralement.
Oui. Oui,
pour avoir la meilleure qualité.
Pas le jetable Kodak.
Pas le jetable. On imprimait les photos et on les mettait en 3D. Et du coup, en fait, ça te permet d'avoir un modèle réaliste en une centaine de photos et c'est réglé, quoi.
Ok.
Donc, et maintenant, t'as des applis qui font ça sur les téléphones, si tu veux des modèles plus ou moins définis. Maintenant, il y a des applis qui font ça mais ultra bien. J'ai pas de nom là, comme ça, j'ai pas trop testé depuis, j'en fais plus. mais ça permet d'aller super vite, notamment pour des projets réalistes, notamment chez Unity Image, mm-hmm. où quand tu fais 15 fois des cailloux, à la fin, ça va plus vite de prendre des photos et de mettre tes cailloux dans les trailers, on va dire.
Bah, techniquement, comment tu faisais alors? Si tu devais m'expliquer comment est-ce que tu arrivais de j'ai envie de faire un caillou et j'ai mon caillou. Bon, on prend un caillou parce que c'est l'exemple.
Ouais, voilà, c'est l'exemple facile.
Mais voilà,
on faisait,
le process,
on
c'est quoi?
Nous, ce qu'on faisait, c'était des fois, on avait des rues pavées et on avait besoin de pavés au lieu de t'embêter à modéliser un par un tes petits pavés. Je l'ai fait aussi. Mais à un moment donné, on s'est dit, pourquoi on ne scannerait pas une rue? Et du coup...
Donc là, tu sors avec ton appareil.
Tu sors avec ton appareil. Tu fais toutes les photos qui t'intéressent, à plus ou moins... Enfin, ça, c'est compliqué vu que c'est qu'à la voix.
Oui, forcément.
Mais à des angles différents. Et du coup, après, tu passes ça dans un sort de traitement d'image.
Ça, c'est ce que vous avez développé, du coup? Ou ça existait
au début,
déjà?
Oui, maintenant ça existe en soft
oui, bien sûr.
Utilisable aujourd'hui. T'as des process qui permettent de délighter tes images pour pas être influencé par la lumière.
Ok.
Ça te permet d'avoir juste l'albédo, si tu veux. Tu peux décomposer ton image comme si tu ferais un shader, en fait.
Donc t'as juste des nuances de gris ou des nuances de couleur?
Tu fais ça directement avec la couleur, c'est juste t'enlèves la lumière pour éviter d'avoir des ombres déjà projetées. Parce que D'accord. nous, après, en 3D, on a besoin aussi de, quand tu simules, quand tu fais ton lighting de ta scène, bah, il te faut pas des influences de lumière dans tes textures.
Oui, sinon ça va être pas
sinon,
cohérent.
Sinon, c'est pas cohérent. Mm-hmm. Donc voilà, et à partir de ces images délightées, on peut aussi récupérer les volumes et du coup faire le traitement avec Reality Capture ou Agisoft ou d'autres qui te permettent de récupérer un nuage de points par rapport à ces modèles-là. Et en fait, bah tu peux remodéliser complètement toute ta rue en fait.
Ok. Et ça, tu le balances dans
et ça, après,
Maya,
dans n'importe quel soft,
dans Nuke,
Blender, Nuke, Max,
Unreal,
Maya. Bah, c'est comme ça que font toute la base de données de Megascan, par exemple.
D'accord, ok. Megascan, c'est un truc que tu peux acheter des...
Voilà, t'achètes des modèles où je crois que ça a été gratuit pour un moment avec Unreal, et vu que ça a été racheté par Unreal. Et du coup, ça leur fait toute une base de données pour les différents projets qu'ils vendent pour faire du modèle 3D, quoi, en fait.
Putain, c'est ouf.
Ouais, et ça te... Enfin, c'est un... temps de prod qui est, enfin, t'as plus besoin de faire de cailloux, enfin, tu as une banque de données et du coup, tu utilises ce que tu veux, quoi.
Ça fait gagner un temps fou,
ça,
j'imagine.
C'est un temps fou en décor. Hein. Ouais. Après, pour du réaliste.
Oui, parce que j'allais dire, est-ce que ça s'adapte à un peu des trucs
après,
un peu plus
cartoon, c'est un modèle 3D, tu peux en faire ce que tu veux.
Ouais.
Mais généralement, c'est voué à des projets plus réalistes ou genre de choses, quoi.
Comme l'a fait Unity dans cette période,
c'est
justement,
ça.
En fait.
Et ouais, ouais, et notamment pour les personnages, après c'est un peu plus compliqué, où donc tu utilises le principe de Phoneme, je pense que tu connais en anime,
ouais.
où bah justement on scannait, c'était une soixantaine de morphes différents qu'on traitait après, on coupait les parties qui nous intéressaient pour telle ou telle animation, donc un morpheur. Et ça, il y avait un traitement pas en automatique, on le faisait à la main à un moment donné. Je sais pas si ça a évolué ou pas depuis. Et du coup, ça nous permettait de fournir aux animateurs bah, des morphes réalistes pour chaque personnage en fait qui était traité.
Et c'est quoi l'avantage par rapport à de la performance capture
plus réaliste.
Aujourd'hui?
Plus réaliste, tu peux les utiliser en displace directement pour avoir le maximum de détails en fait sur la peau, sur le display, ce qui bouge en fonction des morpheurs. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste.
Oui, parce que tu veux dire que en performance capture, tu vas avoir les points qui bougent,
c'est ça.
Mais t'as besoin de recréer toutes les masses, les rides, les
voilà,
etc. Alors que là, tu les as dans ta photo,
ouais.
Quelque part.
Tu les as intégrés dans ton rig où
okay.
Tu peux appeler telle ou telle texture de display, ce qui te permet par exemple d'avoir le pli de la lèvre sur quand il ouvre la bouche par exemple, ou ce genre de choses.
La vache.
Donc si c'est bien en fonction des prods et si c'est développé pour, mais
ça a pas tendance à rigidifier les déformations.
Je suis pas animateur après.
Ouais, mais... en fait c'est intéressant parce que tu vois quand tu vois beaucoup de trucs réalistes, t'as souvent, surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui
ouais.
Bon les technos elles ont vachement évolué,
ouais.
Mais il y a toujours eu ce truc. C'est un peu comme avant que MetaHuman arrive, il y avait quelque chose de très figé, tu
ouais.
vois. Il y a quelque chose où tu dis, oui, c'est réaliste dans le visuel, mais ça bouge pas de manière très organique, un peu moins que quand t'as du rig fait à la main.
Ça sera toujours, bah, depuis maintenant avec MetaHuman.
Il y a un mélange.
Ouais, voilà, c'est un mélange. Avant, on l'utilisait en tant que display. Ce genre de data, tu les utilisais en tant que display, ce genre de choses. Maintenant, c'est en normal dans MetaHuman, par exemple. Enfin, c'est juste la façon de rendre.
Mm-hmm.
Et, ça, après, pour la rigidité de l'anime, ce genre de choses, c'est à l'animateur de...
Ouais.
J'irais bien faire son taf. Et d'avoir l'œil, justement, pour éviter que ça soit trop rigide.
Et donc, tu as fait ça pour les deux, pour les décors et les persos, chez
ouais.
eux. Et est-ce que c'est un truc que t'as pu refaire ailleurs
non.
ou c'est... Ouais, aujourd'hui, j'imagine, comme tu l'as dit, il y a des softs qui existent qui font ça tout seul, en fait.
Ils ont automatisé beaucoup de choses.
Ouais.
Et avec Houdini, maintenant, il y a moyen de faire des trucs. Mais pour l'enviro, maintenant, ça devient... Pour des boîtes, ça devient pas forcément intéressant d'investir là-dedans et de faire tes propres scans parce que t'as Megascan, t'as des librairies maintenant sur le net qui fournissent les mèches directement. T'as des boîtes qui sont spécialisées là-dedans.
Tu trouves que ça suffit?
Ouais.
Y a pas besoin de faire soi-même ses propres trucs pour dire ouais, mais c'est mon caillou?
Bon, ça, ça c'est l'ego du graphiste.
Bah, je parle de ça parce qu'on a forcément ces questions, tu vois. Non, enfin, toi, avec l'IA, la question elle est démultipliée, tu vois, ouais. De dire on va avoir tout le temps les mêmes trucs. Ouais. Et je sais que il y avait le fameux ah c'est un jeu Unreal parce que tu utilises tout le temps, tout le monde utilise les mêmes assets, tout le monde utilise les mêmes sources. Mais là, pour ce genre de truc, t'as l'impression que ça va, il y a ce qu'il faut.
Ouais, il y a ce qu'il faut. Enfin, après, ça dépend des prods, ça dépend de plein de choses. Mais généralement, tu regardes sur du Megascan, savoir s'il y a des modèles qui sont intéressants. Tu peux les, bien sûr, tu peux les. Et après, ça dépend si on a les accès ou pas avec les différentes boîtes. Et bien sûr, tu peux comme les modifier ou, enfin, t'en fais ce que tu veux, quoi.
Oui, après, c'est les limites du réalisme, c'est qu'au bout d'un moment, tu fais tout le temps la même chose, quoi.
Ça, je sais pas si...
Enfin, genre, une échelle, c'est une échelle, quoi, et voilà.
Ouais, voilà.
C'est moi qui l'ai faite. Mais ça me fait penser au gag, là, de l'audio, je sais pas si vous aviez vu ça, où en fait, les mecs ont toujours les mêmes sons dans leur banque de sons pour animaux avec le glissement de cheval. Et en fait, tu te dis, bah, effectivement, pour le réalisme et tout ce qui est cailloux, mousse, tronc d'arbre, tu vas toujours taper dans la même chose, quoi. T'as pas besoin d'inventer la roue mille fois, en fait.
Et puis je trouve que t'as, comme dans le son, c'est une bonne remarque, ils ont tellement d'outils pour tordre les trucs c'est que tu peux prendre un mec qui fait et puis t'as un vaisseau de Star Wars, tu vois.
On va récorder ce son.
Faites un sample, les gars.
Ils vont l'extraire.
Et en 3D, t'as un peu la même chose aussi. C'est vrai que t'as des outils qui sont tellement de plus en plus balèzes que tu peux prendre un caillou à la con et en faire un truc ultra stylisé.
Ouais, c'est ça.
Et putain, c'est assez fou.
Mais après, c'est un objet, c'est la composition qui est intéressante. C'est pas l'objet en lui-même. C'est
comment tu les assembles.
Comment tu les assembles et comment tu fais ton lighting, comment tu fais ton ambiance. C'est ça qui est intéressant. C'est pas l'asset en lui-même. Et après, c'est question de timing de prod aussi. Si t'as 2 semaines pour faire un décor et qu'on te dit bah il y a les falaises, tu veux pas commencer à modéliser. Enfin, ça dépend quoi.
C'est ça la limite que t'as en si la prod te met la pression, la prod comme Marie par exemple.
Il y a le couteau derrière.
Qu'est-ce sur quoi ton environnement, donc ton décor, qu'est-ce qui va en pâtir si t'as plus de temps, si t'as pas le temps de faire?
Non, tu fais rentrer dans le temps.
Tu vas prioriser quoi, du coup? Parce que nous, par exemple, en anime, on a tendance à privilégier les pauses. Tu vois, si t'as plus de temps, ben, tu vas pas avoir le temps de polish. Donc, tu vas faire du pose-to-pose de plus en plus. Tu vas aller à l'essentiel, quoi. Tu vas faire une silhouette claire, une pose claire, et puis du rythme, et point. Et tu vas pas aller chercher des super courbes, des super splines et tout. Et donc, en décor, c'est quoi le, tu vois, les premières choses, les premières briques, lol, que tu vas mettre en place?
Bah déjà tu fais pas le détail mais tu fais l'ambiance générale et tu vois là où tu dois mettre du détail.
Ouais.
Donc si t'as pas besoin de mettre du détail au fond, enfin si la caméra y va pas pour un film et si ta caméra de jeu n'y va pas, tu passes moins de temps dessus bien sûr.
T'as un golden pass comme ça, un truc où tu sais que le joueur va 95% du temps passer par là, du coup, faut mettre la gomme ou...
Sur Pop, c'était plus simple.
Oui, bah oui, parce que là, on allait partout.
Il y avait une caméra et c'était réglé. Pour un jeu 3D, j'ai pas vraiment fait de jeu open world pour l'instant.
Okay.
Donc, du coup, je sais pas comment ils font. Genre sur Elden Ring, je pense qu'ils doivent avoir ce genre d'outils.
Bah ouais, parce que c'est énorme quand même.
T'es obligé de faire un choix, en fait. Je pense qu'ils ont des testeurs qui délivrent des passes particuliers et du coup, si t'as quelque chose qui se passe dans le scénario à un tel endroit, tu mets un money shot à cet endroit-là. C'est un peu comme le film, quoi.
Oui, s'il y a de la réal et tout, peut-être tu mets plus de paquets là-dedans.
Mais sur là où tu passes à cheval et qu'il y a que de la prairie, bah t'en fous, quoi.
Ouais, bah ouais.
Je pense, t'es obligé de prioriser ces choses comme ça. Sinon. C'est long.
Ouais, j'imagine.
Ouais,
j'imagine.
Mettre autant de détails, mais ouais, sur des décors, notamment sur du film ou sur Pop, c'était une fois que t'as les outils, tu vas quand même beaucoup plus vite, notamment de procédural et les outils de création d'archi ou ce genre de choses qu'on a utilisé pour plein de cas différents. Donc tu mets beaucoup moins de temps, mais au début c'était un peu long à mettre en place pour savoir où on met du détail, comment on pense la structure des archis, enfin des bâtiments ou ce genre de choses. Et c'était un peu long à mettre en place.
Tu as une approche aussi artistique, parce que bon, comme je le dis depuis le début, on parle beaucoup de tech, mais est-ce que tu es amené à justement peut-être à revenir un petit peu le côté architectural du truc et à penser en avance tout ce que tu vas devoir construire, peut-être te faire des crowbars,
bah, tu passes toujours par une phase de concept.
Ouais.
Toujours, bah, t'as les concepts artistes ou ce genre de choses et on peut, enfin, en tout cas, moi, c'est mon approche, c'est toujours poser un lighting pour voir tes volumes, toujours commencer à avoir une ambiance pour pouvoir te projeter et dire, bah, tiens, c'est mieux comme ça. Donc,
tu gères la lumière en même temps que tu modélises le décor.
Toujours.
Parce que c'est moins le cas en CG.
Ça dépend des boîtes.
Ok.
T'as des grosses boîtes comme,
Guff ou
Micros, chercher Micros, qui ont justement un département lighting, mais même je suis sûr que des graphistes, ils font du lighting, enfin, les environ artistes sont généralement des généralistes, et du coup, ils posent un lighting, ils posent une ambiance, et après, ils balancent ça au lighting artiste, et pour faire le lighting final, en fait.
C'est pour ça que tu parlais d'un profil généraliste au début. En fait, t'as besoin de savoir faire de la modé.
C'est ça.
Du
rig.
De la texture, de la lumière.
Généralement, les environs artistes sont des généralistes artistes, en fait.
Ouais.
En tout cas, en CG, c'est une image. Je sais pas aujourd'hui comment est le pipe là-bas, mais il y a toujours une approche un peu généraliste à devoir faire ton lighting. Si t'as de l'animation d'environnement, bah tu fais du rig de, je sais pas moi, de d'arbres pour pouvoir gérer le vent par exemple, ou ça peut être des chaînes, ça peut être plein de choses, ou tu peux gérer de la physique, tu peux gérer plein de choses. Donc il faut avoir une approche généraliste et être un peu au courant de comment on pourrait faire notre meilleur rendu pour un environnement, quoi. Parce qu'un rendu fixe, c'est bien, mais mieux animé.
Bah, c'est vrai que c'est une énorme partie de l'image, en plus. Donc, forcément,
ouais,
on va pas vous rater, quoi. Si les décors sont dégueux, ça se voit de fou, quoi. On arrive pas trop loin de la fin. J'ai encore deux, trois questions. Alors, on les a déjà un peu abordées, mais est-ce que, enfin, Houdini, quand même, c'est censé être un logiciel de VFX dans ma tête.
Non.
Donc comment ça se fait comment ça se fait que tu t'en sers pour faire des cailloux, enfin des cailloux qui, tu vois, qui tombent pas et qui explosent pas et
ça dépend. Houdini peut être utilisé pour plein de choses.
Il fait du modeling et tout, t'es capable de faire du modeling et des trucs comme ça dedans?
Ah ouais, totalement,
sans souci. Parce que
c'est pas du modeling, justement, c'est pas du modeling comme on l'entend dans du Blender, et encore maintenant il y a géométrie dans Blender. C'est pas du fait à la main, c'est des suites d'opérations mathématiques ou des suites de nodes qui te permettent en fait d'arriver à des variations de résultats.
Ah, on revient au procédural,
voilà,
là.
Procédural.
En fait, on est très dans
en soi, on pourrait modéliser à la main, mais c'est juste pas fait pour.
Ok, ouais.
Donc,
tu tires pas les edges, les faces,
ouais, voilà,
c'est ça que tu veux dire?
Voilà, c'est ça.
Ah, ok, d'accord.
Tu pourrais, mais c'est pas fait pour.
Ouais, ouais. Il y en a d'autres plus optiques pour ça.
Voilà, c'est ça. Tu fais pas du sculpt. Et encore, si, je pense qu'il y en a certains qui le font. Du sculpt dans Houdini ou ce genre de choses. C'est, ça a plus une approche de monter des scènes, de monter des pipes, et même en anime, il y a beaucoup de VFX qui utilisent ça.
Houdini,
bah,
ah, bien,
full,
sûr.
Pour tout, en fait.
Les simu surtout.
Ouais, voilà, simu aussi.
Ouais.
Donc, ouais, il y a...
On avait vu...
C'est un soft de fou.
On avait vu avec le doc, je crois que c'était Annecy, il y a 2 ans, on avait vu Canary, je crois, qui l'avait bouleversé d'ailleurs, qui était full Houdini.
Ouais.
De A à Z avait été fait dans Houdini. Donc,
non, c'est génial comme ça. Mais c'est long à l'apprentissage. Ouais, c'est...
Ça a l'air très...
C'est mathématique.
Mathématique,
ouais,
exactement.
Tu réapprends la 3D. Non, vraiment. les fois où je me suis un peu auto-formé au début sur Houdini, où tu vois très très vite la possibilité énorme que tu as sur ce logiciel, mais t'as une courbe d'apprentissage qui est monstrueuse, quoi. C'est quand t'ouvres une porte et t'as un pan entier de la 3D qui te saute à la gueule.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Et t'as une énorme partie Python, tu peux coder, faire des trucs toi-même et tout, quoi, j'imagine.
Pas comme dans, un peu comme dans Maya, je pense. Ça, j'en ai pas trop fait, mais ouais, c'est un peu le même délire.
Et puis après, bah, la dernière question, je pense, et puis après, on pourra aller tranquillement vers un CG Biance. Marie, si tu as des questions à ajouter, parce qu'on arrive au bout de notre conducteur, mais t'hésite pas. Moi, c'était celle sur LinkedIn, là, j'ai vu pas mal de soft.
Ouais.
Il y avait quoi? Il y avait Clarisse, Substance, Houdini, Maya évidemment.
Non, pas trop de Maya. Bon,
pas tant que ça, mais oui.
J'ai juste quelques notions de Maya parce que en fonction bah voilà des studios.
Ouais.
Chacun a son propre pipe et bah ça nous adapter d'apprendre les différents softs, mais après c'est juste être familiarisé avec les différents softs de 3D.
Tu t'en sers tous autant les uns que les autres un peu, bon, à part Houdini qui a l'air d'être central quand même.
Bah c'est devenu central.
Ouais.
Mais non, j'utilise plus beaucoup Max, Maya j'utilise pas beaucoup.
Ouais.
C'est beaucoup du Blender et du Houdini. Parce que Blender voilà.
Ouais.
Tout le monde s'y met et c'est quand même bien bien cool à l'utilisation. Et bah après oui, il y a du Substance Designer, il y a du ça c'est pour tout ce qui est texture. Et c'est avoir une approche, bah c'est je l'ai appris au fur et à mesure des prods en fait. C'est designer, j'ai appris avec Pop. Donc ça avait plus une idée d'automatisation de tools pour les textures et de procédural comme comme avec Houdini en modélisation. Et ça a été vraiment un de mes axes, c'était apprendre tout ce qui était procédural en fait. Une fois que c'est bon, t'as fait 10 ans de modélisation classique où tu faisais tout à la main, enfin j'avais envie de justement de me rendre utile avec certains tools pour les prods. Il y aura toujours des modélisations à la main à faire, ça c'est évident parce que t'as besoin d'un design particulier ou genre de choses, mais pour tout le reste bah il faut accélérer les choses quoi.
Vous le planifiez ça quand vous faites une pré-prod etc. Vous arrivez déjà à vous dire alors là on va avoir besoin d'un modélisateur spécifique pour ça, on va avoir besoin de
ça dépend de la taille des prods.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Ça dépend du contenu du jeu en fait sur lequel tu pars à la base. Mais oui, tu peux déjà quand même t'imaginer quelques spécialistes qu'il va te falloir en modé sur certains sujets.
T'en prends un de base, j'imagine. Et de toute façon.
Je pense dans la majeure partie des cas, ouais. Mais il peut y avoir des cas où non, pas du tout. Enfin, tu vois, ouais. Je me dis les jeux en fait, t'as tellement de possibilités que pas nécessairement. Ça dépend vraiment de ton scope, quoi.
Mais après, des fois, ça vient au long de la prod où t'as quelqu'un. Bah, moi, j'avais une appétence pour ça. Où ça a été. Bah je propose mes services, après c'est pris ou pas par la prod, ça c'est pas c'est en fonction quoi, faut s'adapter et oui ça dépend, des fois t'as des opportunités sur les projets quoi.
Ça dépend de la taille de l'équipe que tu peux avoir.
Voilà, ça dépend
aussi,
c'est plein de choses. Donc,
on t'a souvent demandé toi de gérer quand même tout de depuis la modélisation jusqu'à la livraison dans le jeu ou au général ça c'est un peu plus éparpillé, je sais pas comment dire, mais de ton expérience.
Là, je suis en train de le faire, je peux pas trop en parler.
Ah oui, oui, évidemment.
mais sur Pop, j'ai pas trop. Enfin, si c'était modéliser un décor de A à Z, quoi. Donc après, tu utilises les possibilités que tu as, les softs que tu connais, et ça. Du moment que le résultat est là, et si t'as les softs qui te le permettent, bah, tu peux utiliser ce que tu veux, en fait.
Ok.
Donc,
ça peut être un exercice aussi. Tu vois, ouais, ça peut être un crash test de ok, où est-ce que du coup on prend du temps, qu'est-ce qui pêche, et comme ça permet derrière au métier tech de justement de réfléchir dans la bonne direction en fonction de ce qu'on a soulevé quand on a fait le test. De, ok, là on a tout modélisé par exemple de A à Z. Ça nous a pris tant de temps. Ça rentre pas.
Qu'est-ce qu'on peut optimiser. Voilà.
Ouais, et là tu commences à être plus précis, à savoir combien de gens tu vas devoir embaucher et tout quoi.
Ouais.
Exactement.
Est-ce que tu as une préférence du coup entre la CG et le JV en vrai de vrai?
Non.
J'ai du temps à rien sans la réponse.
Ouais, j'ai eu du temps à répondre. en soi, non. C'est franchement, j'ai à y repenser que ça soit autant le jeu que le film. Bah, je retournerai bien dans le film aujourd'hui et je suis sûr que dans 5 à 6 ans, une fois que j'aurai fait quelques prods, je serai aussi intéressé de revenir dans le jeu. Et
qu'est-ce qui te manque là dans le cinéma qui te donne envie d'y retourner justement et à l'inverse, quand t'es dans le cinéma, qu'est-ce qui te manque et tu retournes dans le JV? Ou est-ce que c'est juste les deux
bottes?
Je sais pas,
non, voilà. C'est les deux, c'est en fonction des projets en fait, ouais. Les deux me bottes, mais
parce que moi par exemple, tu vois, j'ai envie de refaire de l'acting, par exemple, un truc qui me manque beaucoup. En JV, en animation, surtout gameplay, t'es très dans le body, dans le body mecha et t'es pas trop en train de montrer un personnage
qui est
en train de
chialer. Ouais, mais il y a des cinématiques, par exemple.
Alors, les cinématiques, c'est autre chose. C'est vrai.
Donc, ouais, c'est après, c'est comment se positionner au niveau de ton job et de l'équipe et d'apporter ta plus-value, quoi. Bah là, moi, c'est un peu le même style où, je suis bien actuellement dans tout ce qui est tech parce que j'apprends énormément de choses et c'est un truc que j'ai toujours voulu connaître. Mais à un moment donné, quand je vais avoir envie de refaire de l'image pure et de faire un décor complètement, ça, je l'ai pas vraiment dans la tech.
Ouais.
Donc, tu peux le réavoir dans le jeu vidéo comme dans le ciné, mais ça dépend vraiment des projets, en fait. Moi, je suis plus... je regarde plus trop les projets, s'ils sont intéressants ou pas. C'est vraiment l'équipe, le mood que ça a et s'il y a un intérêt d'apprentissage, en fait. J'aime bien.
C'est ce que j'allais dire. C'est ouais. Est-ce qu'il y a deux, trois objectifs comme ça, deux, trois trucs, tu dis, ah, ça, j'aimerais bien le connaître maintenant.
Ouais, bah, c'est ça. C'est là, par exemple, Unreal, j'ai pas vraiment produit dessus. Mm-hmm. J'ai envie de connaître et de, mais ça, je peux le faire actuellement, moi, tout seul dans mon coin. Mais ouais, toujours avoir une veille technique, c'est.
Et il y a quoi d'autre à part Unreal dans la tech ou dans. Même dans l'artistique, pourquoi pas aussi?
Ouais, dans l'artistique, je sais pas trop.
Non. En tout cas, tu continuerais comme ça en enviro, ça te botte à mort et tout.
De l'enviro, du pipe, tout le genre de choses, mais j'irais pas sur du cara ou parce que je suis pas très très bon là-dedans.
Ouais.
Mais ou de l'anime, j'en ai fait un peu et c'est pas ce qui m'attire le plus.
Et dans le cara, qu'est-ce qui est pas si transposable que ça par rapport à ce que toi tu sais faire.
C'est des fous, les cartes.
Pourquoi tu.
non, c'est trop. Il y a énormément de règles au niveau d'un personnage, quoi.
Ouais.
Okay. Et je suis pas du tout. J'ai pas l'œil pour ça, donc.
Okay.
Je préfère monter, avoir de l'œil pour de la lumière sur un décor, sur ce genre de choses qu'un personnage. C'est assez difficile, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas l'œil pour ça, donc.
Oui, c'est juste que t'as pas une affinité pour ça, voilà, ouais. C'est tout. Eh ben, pour finir, est-ce que tu as des références éventuellement que tu voudrais donner à des gens, des bouquins, des sites, des chaînes YouTube, je ne sais pas, des trucs où vraiment tu dis « Ah, oh, je vais toujours là-dessus ». Bon, t'as cité tout à l'heure 80 Level,
ouais, 80
et,
level qui
et 3 DVF.
Houdini Doc. Pour ceux qui veulent faire du Houdini, c'est la mort.
Il y a des Discord, des Reddit, des trucs comme ça pour ce genre de trucs.
Ah, je suis pas très Discord et Reddit. Mm-hmm. Non, moi, je trouve toutes mes infos sur YouTube, généralement.
Ouais, c'est assez documenté au final.
Ouais, c'est fou. YouTube. Le nombre de gens qui produisent des trucs, des tutos, ce genre de choses pour apprendre tout et n'importe quoi.
Ouais.
Et, ouais. Bah.
Non, il y a rien qui t'aide.
Ouais, bah généralement ouais, c'est 80 level et YouTube pour moi.
C'est déjà
et,
très bien.
Et ouais, il y a quand même beaucoup de choses quoi. Mais après l'expérience en direct dans les projets, c'est ce qui est le mieux quoi.
Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais.
On apprend toujours des autres. donc voilà.
Marie, est-ce que tu as une dernière question
Mais écoute,
pour Laurent?
Pas particulièrement, parce que je réfléchissais à si jamais il avait un rêve de projet, mais bon, il a un peu dit, en fait, tu voudrais retourner surtout dans la CG, là, pour faire le jongler
je
un petit
pas,
peu.
Non, je suis bien dans le jeu, ouais. Et c'est vraiment en fonction des projets et des équipes, ce genre de choses.
Ou quelque chose à mettre en application, peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as testé, tu trouves ça génial, et t'as encore jamais pu l'utiliser concrètement sur un projet en
là,
cours?
Aïe,
aïe. On est dans la confidence pour confidence. Ouais, d'accord.
Il est en train de vivre un rêve éveillé.
Ouais, non, c'est ça, en fait.
Mais non, là, pour l'instant, j'apprends énormément et c'est ça qui m'éclate. Donc, c'est ouais, toujours apprendre, quoi. Si, c'est faire en boucle à chaque fois tout ce que tu sais déjà faire. C'est, moi, ça m'ennuie à un moment donné. Donc,
L'avantage avec la tech, toujours en évolution, du coup.
Ah ouais, c'est dingo. Bah, les 4 ans, il y a une nouvelle tech qui arrive, il y a un nouveau truc, encore mieux, et du coup, il faudra toujours automatiser des choses et utiliser tous ces trucs-là et de faire des super images, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Tu viens de finir d'apprendre la tech sur laquelle tu étais, il y en a une nouvelle qui sort.
Voilà,
ça te laisse les 4 ans d'apprentissage.
Vraiment, c'est
ça,
hein. c'est
comme
c'est
ça, fou. Après, tu peux passer au level au-dessus.
Et ça, c'est parce que toi, tu as envie de le faire. S'il y a des gens, ils restent sur leur soft et puis basta, quoi. Ouais. Mais bon.
Ça me méritait un petit peu. Ouais, mais...
Normal, en même temps, c'est chaud. Moi, je trouve d'être toujours au taquet c'est comme clair. Ça.
Ouais. Et c'est, même en l'étant un petit peu, c'est dur d'être au taquet, surtout.
Ouais, toujours
quelqu'un à côté de toi qui sera encore plus à jour et c'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'apprends.
Et après, je pense quand même que ça fait partie des métiers où tu peux pas te reposer sur tes acquis, en fait.
Non.
Même si certains tire un peu la patte pour évoluer, t'es obligé en fait d'avancer avec la techno, parce que ne serait-ce que dans le jeu, après t'as des nouvelles consoles, enfin voilà, t'es obligé de suivre en fait.
Ouais, c'est ça.
Et puis tu gagnes en efficacité, en rapidité, ouais. Et vu les quantités de choses que vous avez à faire.
Une partie plus... que j'aime bien, en tout cas sur Pop, ça a été ça. C'était ouais rendre service à l'équipe en fait. Mmh. C'est dire bah voilà. Tiens, si tu fais ça comme ça, ça présenter une nouvelle chose et te dire bah voilà on peut aller plus loin et on peut ça pourrait aider l'équipe et aller plus vite et ou faire des choses qui sont chiantes à la base à faire qui vont te prendre 3 semaines à faire. Du coup ça on peut l'annuler et on peut penser plus à une compo d'image ou à du lighting ou ce genre de choses et sur le rendu réel. Et pousser le détail plutôt que sur des trucs qui sont chiants, quoi.
Du genre, qu'est-ce qui est chiant?
Les cailloux. Faire des cailloux en bois.
Les cordes.
Non, mais tu vois, tu dois modéliser, je sais pas moi, 1 kilomètre de château et tu dois te taper toutes les pierres. Enfin, si c'était à l'ancienne, tu dois modéliser sur notre broche toutes les pierres. Tu fais non.
Ouais, non, c'est clair, tu vas pas le faire. Ouais.
Donc, non, il y a des façons plus simples et des outils qui sont quand même bien cool, quoi.
Le fameux demande à Lolo, voilà,
c'est vrai
qui revenait.
C'était un...
Tout à fait.
Voilà, si vous ne savez pas, demandez à Lolo, il sera ravi de vous répondre.
Ça dépend. Non, mais ouais.
Bon, bah super. Super, merci Laurent, merci beaucoup
merci à vous.
Pour toutes ces explications. Merci Marie, j'espère que ça a été une première...
Bah merci pour l'accueil, ce fut très sympa d'être de l'autre côté de la table.
Mise à pied à l'étrier, j'allais dire, j'arrive pas à trouver l'expression. Donc...
Ouais, mais c'est bien, mise à pied à l'étrier, c'est vrai que c'est compliqué, mais...
C'est très bizarre hein, quand même. Hein.
Ouais.
Bon, bah merci beaucoup Laurent encore, merci Marie.
Merci.
Merci à tous les bipèdes, on vous retrouve pour une prochaine émission, et d'ici là, bisous bisous.
Salut.
Ciao, ciao.